La chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.
Après avoir parlé des océans, vous évoquez dans le livre que la principale cause de pollution de l'eau, c'est l'agriculture intensive. Pourquoi cela ?
Oui, alors il y a bien sûr diverses formes de pollution qui touchent l'eau, les médicaments, les polluants éternels et autres. Mais c'est vrai que, alors moi, quand j'ai enquêté pour faire cet ouvrage, je savais que l'agriculture avait un impact, notamment l'agriculture industrielle, un impact considérable sur l'eau. Mais c'est vrai que là, je me rends compte que ça prend une place énorme. Alors notamment, bien sûr, il ne s'agit pas d'accuser les agriculteurs, hein, mais d'accuser un modèle qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui est toujours encouragé aujourd'hui. Et même les agriculteurs, on le voit actuellement avec toutes les manifestations, ont du mal à vivre hein, de leur production. Donc c'est pas du tout les agriculteurs qui sont en cause, mais un modèle agricole qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai qu'on voit que, notamment à cause des nitrates et des pesticides, que la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France sont pollués par les pesticides et les nitrates, et qu'on retrouve même un peu un cocktail chimique de tous ces micropolluants dont on connaît assez mal les causes. On connaît bien les causes, mais on connaît assez mal les conséquences de ce cocktail chimique et on retrouve encore des traces de l'atrazine. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a énormément de conséquences sur l'usage de ces pesticides sur l'eau, que ça a une conséquence sur la biodiversité, parce que quand l'eau en fait part et est traitée dans les stations d'épuration, on n'enlève pas la pollution chimique. Nous, on retrouve des traces de pesticides jusque dans la graisse des baleines. Bon, pour notre eau du robinet, il y a une partie de cette pollution chimique qui est retirée, pas toute, on en parlera peut-être, mais il y a une partie qui est tout de même retirée. Et il y a aussi les fameux nitrates. Donc là, les nitrates, c'est plutôt les excréments des animaux qui sont à l'origine d'avoir trop de nitrates dans les rivières, notamment en Bretagne, où il y a près de plus de 13 millions de porcs qui sont élevés chaque année, hein, plus de 3 fois la population bretonne. Et donc, à cause de ces élevages massifs dans une région, le sol ne peut pas absorber tout ce nitrate et on se retrouve avec des algues vertes très importantes tout autour de la Bretagne. Il y a eu énormément de plans qui ont été mis en place ces 20 dernières années. Le problème, c'est que même si on met des stations d'épuration dans les élevages, qu'on met en place des choses, etc., vu qu'il y a toujours 13 millions de porcs qui sont élevés en Bretagne, la terre ne peut pas absorber tout ce nitrate et on se retrouve avec donc ce problème d'algues vertes. Et donc ça, c'est un problème quand même très important qu'on a du mal. On a réussi au cours du XXe siècle à réduire de façon importante la pollution domestique, c'est-à-dire la pollution qui était liée au ménage. On a réussi à retirer, pas partout, mais une partie de la pollution industrielle aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'usines qui sont parties de France. Et on a beaucoup de mal à supprimer cette pollution liée à l'agriculture. C'est là où tous les plans échouent depuis plusieurs dizaines d'années.
D'accord. Donc, pour revenir sur ce que vous avez dit sur les algues vertes, donc vous avez évoqué qu'il y avait beaucoup d'algues vertes aujourd'hui en Bretagne, mais est-ce que c'est juste une nuisance visuelle ou il y a d'autres soucis liés aux algues vertes ?
Non, il y a beaucoup de soucis hein, liés aux algues vertes. Ça a un impact considérable sur la faune et la flore, hein, parce que ça va tuer toute une faune et une flore sur une région. Il y a même eu des cas, j'en parle dans l'ouvrage, je vais peut-être moins rentrer en détail ici, mais sur la santé humaine, hein, avec des cas suspects de mort autour de ces algues vertes. Donc ça a un impact considérable, bien sûr, pas seulement visuel d'algues vertes. Par contre, c'est une pollution qu'on voit, contrairement à la pollution chimique des pesticides, mais ça a un impact sur la biodiversité très important, et ça a un impact même pour la santé humaine.
Ouais. Pour les auditeurs qui veulent aller plus loin sur cette problématique, il y a d'ailleurs une très intéressante BD nommée Algues vertes et un film. Voilà, pour la parenthèse.
Et d'ailleurs, sur les algues vertes, au départ, on a accusé les lessives. Ça a mis du temps. Pendant un temps, on questionnait. Alors aujourd'hui, l'origine de ces algues vertes ne pose plus question, mais il y a eu des questionnements au départ.
Donc vous avez évoqué les pesticides et le fait qu'elles restent longtemps dans l'environnement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là on voit dans le contexte de réautorisation du glyphosate, est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment une diminution du nombre de pesticides utilisés ?
Non, il n'y a pas de diminution des pesticides utilisés. Alors des fois il y a des débats en termes de volume, mais parce que des fois on utilise des molécules qui sont plus actives, plus fortes, et donc c'est pour ça qu'il y a des fois des débats, et dans l'ouvrage j'en parle avec plus de détails entre l'usage des pesticides en volume, mais comme il y a des... qui peut diminuer, mais comme... En fait, il faut normalement calculer en odus, on appelle ça, parce que les molécules utilisées par l'agriculture sont plus fortes qu'avant. Donc, non, il n'y a pas de diminution de pesticides au niveau de la France parce qu'on ne change pas de modèle agricole. Si on veut vraiment avoir une réduction des pesticides, il faudrait changer plus profondément de modèle agricole. On ne peut pas juste retirer le glyphosate. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça voudrait dire changer globalement ce qu'on produit. Et alors, en grande partie, on se retrouve souvent avec ce problème-là, parce qu'aujourd'hui, on cultive énormément de céréales qui consomment énormément d'eau et qui polluent l'eau pour nourrir des élevages industriels, alors qu'il faudrait tout simplement qu'on produise beaucoup moins d'animaux, qu'on élève beaucoup moins d'animaux et que ces animaux mangent de l'herbe.
Donc, sur les pesticides, on entend beaucoup parler, mais quel est le risque sanitaire pour des pesticides, et est-ce qu'ils peuvent être traités aujourd'hui dans les stations d'épuration, par exemple ?
Alors, dans les stations d'épuration, ils ne sont pas traités. Il y a des pays comme en Suisse où on a décidé de traiter la pollution chimique, mais ça coûte beaucoup d'argent, hein, parce que ça est de l'énergie. Aujourd'hui, quand l'eau, elle part quand elle part dans la nature, dans les stations d'épuration, elle retire la pollution domestique, mais pas la pollution chimique. Par contre, quand ça arrive dans notre robinet, dans une partie de la France, pas partout, plus il y a de densité, plus c'est traité. Donc on va utiliser par exemple des systèmes de charbon actif. Moi, j'en ai visité pendant mon enquête, où on va voir différents bassins, on va retirer une partie de cette pollution chimique. Il y a de plus en plus d'endroits où on va carrément utiliser des systèmes d'osmose inverse, donc de membrane. C'est la même chose qu'on utilise pour dessaler l'eau de mer, où on va enlever toute cette pollution de pesticides. Mais là, ça consomme beaucoup d'énergie, hein. Il faut savoir que ces systèmes de membrane consomment beaucoup d'énergie, donc on va émettre des émissions de gaz à effet de serre et donc renforcer le changement climatique. Ça peut quand même poser question. Donc c'est un peu comme le plastique, la meilleure façon de ne pas avoir des pesticides, c'est de ne pas en utiliser, parce que d'enlever ces pesticides, ça va forcément coûter de l'argent, et on ne pourra pas maîtriser tout ce qui part dans la nature, ça c'est sûr.
Okay. Et sur les pesticides, ont-ils un lien avéré avec les perturbateurs endocriniens?
Oui, il y a un lien. Beaucoup de pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Oui, je n'ai pas répondu à votre question sur l'aspect sanitaire. Alors, c'est vrai que dans les questions sanitaires, ce n'est pas toujours simple lié à l'environnement, parce qu'il n'y a pas qu'une cause. Souvent, il y a plusieurs causes. Mais on sait que les pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Certains sont aussi à l'origine de cancers. Ça a aussi un impact sur la biodiversité, bien sûr, importante. Bien sûr, souvent, c'est multifactoriel, mais ça a un impact sur la santé, même à faible dose, c'est le problème. Alors, il faut être quand même assez juste. Moi, quand j'ai fait mon enquête, il y avait 4% des personnes en France qui pouvaient avoir régulièrement des traces de pesticides dans leur eau du robinet. Aujourd'hui, le chiffre, il est monté à 20%, ce qui est... Mon enquête, elle n'est pas très ancienne. Elle date d'il y a quelques années. Donc, j'étais très étonnée de ce chiffre qui est passé de 4% à 20% des Français qui pouvaient avoir de l'eau contaminée par des pesticides. Alors, c'est tout simplement parce qu'avant, il y avait des molécules qu'on ne cherchait pas dans l'eau, qu'on recherche aujourd'hui, hein, donc c'est sûr que voilà, c'est pour cette raison-là. Par contre, il faut aussi être honnête, on va ingérer beaucoup plus de pesticides quand on mange de la nourriture industrielle directement que par l'eau. Mais l'eau, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que l'eau, elle arrive à notre robinet, donc soit on prend l'eau du robinet, soit on va prendre de l'eau en bouteille, mais ce qui a d'autres impacts, notamment par rapport à la production de plastique. Donc c'est pas simple, parfois, de savoir quelle eau boire.
Donc, vous avez évoqué le fait que les pesticides ne pouvaient pas être traités dans les stations d'épuration, mais les pollutions domestiques, oui. Donc, est-ce que ces pollutions domestiques et industrielles sont en recul aujourd'hui ?
Oui, ça, il faut être tout à fait... vous montrer aussi les aspects positifs avec ce qui a été fait en France au cours du XXe siècle, avec les fameuses agences de l'eau, avec tous ces systèmes qui ont été mis en place en France avec un traitement des eaux usées, hein, parce que 80% des eaux usées dans le monde ne sont pas traitées, hein, c'est pas le cas en France. On a traité une grande partie de la pollution domestique et de la pollution industrielle. Alors, pas tout, hein, il y a des endroits où il y a encore des problèmes avec la pollution industrielle. On parle des polluants éternels, notamment dans la région Rhône-Alpes, même ailleurs où il y a des traces, notamment les polluants éternels, c'est tout ce qu'on utilise pour rendre par exemple le plastique plus mou dans les poils, pour tout ce qui est anti-adhésif. Il y a aussi des pesticides qui sont à l'origine de ces polluants éternels. Donc ça, c'est encore des traces qui sont liées notamment à l'industrie. Mais c'est vrai que dans beaucoup d'endroits en France, on a réussi à réduire la pollution industrielle et la pollution domestique, en sachant que par rapport à la pollution industrielle, c'est aussi lié au fait qu'il y a moins d'usines aujourd'hui en France qu'avant, quand même, aussi.
Donc on a souvent l'impression là dans les médias qu'on va commencer à manquer d'eau. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est dû au changement climatique?
Alors bien sûr que le changement climatique a un impact considérable sur l'eau, hein. Alors il va pas avoir moins d'eau sur la planète, mais il y a des endroits où il va avoir moins d'eau, des endroits où il va avoir plus d'eau. On sait par exemple qu'autour du bassin méditerranéen, il y aura moins d'eau. Mais c'est pas toujours aussi, quand on enquête vraiment sur ce sujet-là, on est plus précis sur les températures que sur la pluviométrie. C'est pas toujours si simple de ça, que ça de les prévoir. Mais on se rend compte quand même que le changement climatique est surtout révélateur souvent d'une mauvaise gestion de l'eau. Et même si nous n'avions pas le changement climatique, on aurait un problème d'eau parce qu'on a augmenté les prélèvements d'eau 1,7 fois plus vite que la population au cours du XXe siècle. Et donc, c'est un vrai problème, hein. Le fait qu'on consomme aussi beaucoup trop d'eau, bien sûr que le changement climatique renforce, hein, mais alors notamment, le plus grand consommateur d'eau, c'est l'agriculture, hein. Dans le monde, 80 à 90% de l'eau est consommée, par l'agriculture. Et en France, c'est environ 58% de l'eau qui est consommée par l'agriculture et 80% l'été. Et il y a énormément de solutions, hein, pour essayer justement de préserver cette eau, notamment avec l'agroécologie. Alors quand je parle d'agroécologie, moi je parle d'une agriculture qui va aller plus loin même que le cahier des charges de l'agriculture biologique, qui est expérimentée depuis des dizaines d'années en France et un peu partout dans le monde. Alors je vais faire simple, ça veut dire qu'on va cultiver en harmonie avec la nature, avec le vivant. Ça veut dire par exemple, alors ça va dépendre des endroits dans le monde, mais on va cultiver. Alors, il n'y aura pas d'élevage industriel, il peut y avoir de l'élevage, mais un peu de poly, donc dans une même ferme. On va avoir un peu d'élevage, on va servir du fumier pour faire du bon compost, on va utiliser des cultures associées, on va recouvrir les sols, on va cultiver dans les zones semi-arides, on va cultiver sous les palmiers d'altier. Et voilà, il va y avoir plein de façons de faire. Et on sait que de cultiver de cette façon-là, ça, on va aussi cultiver entre les arbres qui vont permettre à l'eau de plus rentrer dans le sol. On va avoir un sol beaucoup plus nourri qui va permettre à l'eau de rester dans les sols. Et on sait que dans les zones semi-arides, ça permet de multiplier de 5 à 10 fois la capacité de rétention d'eau des sols. Et ça permet de ne pas utiliser de pesticides. Alors, contrairement aux idées reçues, on pourrait tout à fait nourrir la planète avec ce modèle agricole. De toute façon, ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète aujourd'hui. L'agriculture industrielle, elle nourrit les pays riches, les pays occidentaux et les élevages industriels, mais pas du tout, c'est pas elle qui nourrit la planète de façon globale. Par contre, c'est vrai qu'il y aurait des choses à changer si on voulait nourrir la planète de cette façon-là. Il faudrait déjà manger beaucoup moins de viande pour que, en fait, on utilise les terres agricoles, pas pour produire des céréales, pour nourrir les élevages industriels. Mais voilà, donc il faudrait manger beaucoup moins de viande, hein, 50% de viande en moins en Occident, par exemple. Et on en a parlé tout à l'heure, et je pense que par rapport à l'actualité, c'est important de le rappeler aujourd'hui, c'est toute la chaîne alimentaire qu'il faut changer. Pas seulement le modèle agricole pour que les paysans puissent vivre de leur production. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une grande distribution qui fait souvent pression sur les prix et qui empêche les paysans de vivre de leur production, et qu'on a aussi énormément d'échanges internationaux qui désorganisent complètement la paysannerie. Donc il faudrait aussi remanger local. En France, on exporte la moitié de notre production et on importe à peu près 30% de ce qu'on mange.
C'était la chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.